Ainsi, par la bénédiction du hasard, aucun enseignement ne manquait à Lucien sur la pente du précipice où il devait tomber. D'Arthez avait mis le poète dans la noble voie du travail, en réveillant le sentiment sous lequel disparaissent les obstacles. Lousteau lui-même avait essayé de l'éloigner par une pensée égoïste, en lui dépeignant le journalisme et la littérature sur leur vrai jour. Lucien n'avait pas voulu croire à tant de corruption cachée. Mais il entendait enfin des journalistes, criant de leur mal. Il les voyait à l'œuvre, éventrant leur nourrice pour prédire l'avenir. Il avait, pendant cette soirée, vu les choses comme elles sont. Au lieu d'être saisi d'horreur à l'aspect du cœur même de cette corruption parisienne si bien qualifiée par Blücher, il jouissait avec ivresse de cette société spirituelle. Ces hommes extraordinaires, sous l'armure damasquinée de leurs vices et le casque brillant de leur froide analyse, il les trouvait supérieurs aux hommes graves et sérieux du Cénacle. Puis il savourait les premiers délices de la richesse, il était sous le charme du luxe, sous l'empire de la bonne chère. Ses instincts capricieux se réveillaient, il buvait pour la première fois des vins d'élite, il faisait connaissance avec les mets exquis de la haute cuisine. Il voyait un ministre, un duc et sa danseuse, mêlés aux journalistes, admirant leur atroce pouvoir. Il sentit une horrible démangeaison de dominer ce monde de rois où il se trouvait la force de les vaincre. Enfin, cette Coralie qu'il venait de rendre heureuse par quelques phrases, il l'avait examinée à la lueur des bougies du festin, à travers la fumée des plats et le brouillard de l'ivresse. Elle lui paraissait sublime. L'amour la rendait si belle. Cette fille était d'ailleurs la plus jolie, la plus belle actrice de Paris. Le Cénacle, ce ciel de l'intelligence noble, dut succomber sous une tentation si complète. La vanité particulière aux auteurs venait d'être caressée chez Lucien par les connaisseurs. Il avait été loué par ses futurs rivaux. Le succès de son article et la conquête de Coralie étaient deux triomphes à tourner une tête moins jeune que la sienne. Pendant cette discussion, tout le monde avait remarquablement bien mangé, supérieurement bu. Lousteau, le voisin de Camusot, lui versa deux ou trois fois du kirsch dans son vin sans que personne n'y fît attention, et il stimula son amour-propre pour l'engager à boire. Cette manœuvre fut si bien menée que le négociant ne s'en aperçut pas. Il se croyait dans son genre aussi malicieux que les journalistes. Les plaisanteries acerbes commencèrent au moment où les friandises du dessert et les vins circulèrent. Le diplomate, un homme de beaucoup d'esprit, fit un signe au duc et à la danseuse, dès qu'il entendit ronfler les bêtises qui annoncèrent chez ces hommes d'esprit les scènes grotesques par lesquelles finissaient ces orgies, et tous trois, ils disparurent. Dès que Camusot eut perdu la tête, Coralie et Lucien, qui, durant tout le souper, se comportèrent en amoureux de 15 ans, s'enfuirent par les escaliers et se jetèrent dans un fiacre. Comme Camusot était sous la table, Matifat crut qu'il avait disparu de compagnie avec l'actrice. Il laissa ses hôtes fumant, buvant, riant, disputant, et suivit Florine quand elle alla se coucher. Le jour surprit les combattants, ou plutôt Blondet, buveur intrépide, le seul qui put parler et qui proposait aux dormeurs un toast à l'aurore aux doigts de rose. Lucien n'avait pas l'habitude des orgies parisiennes. Il jouissait bien encore de sa raison quand il descendit les escaliers, mais le grand air détermina son ivresse qui fut hideuse. Coralie et sa femme de chambre furent obligées de monter le poète au premier étage de la belle maison où logeait l'actrice, rue de Vendôme. Dans l'escalier, Lucien faillit se trouver mal et fut ignoblement malade. « Vite, Bérénice !» s'écria Coralie. « Du thé, fais du thé !»« Ce n'est rien, c'est l'air !» disait Lucien. « Et puis, je n'ai jamais tant bu. »« Pauvre enfant, c'est innocent comme un agneau !» dit Bérénice. Bérénice était une grosse Normande, aussi laide que Coralie était belle. Enfin, Lucien fut mis à son insu dans le lit de Coralie. Aidée par Bérénice, l'actrice avait déshabillé avec le soin et l'amour d'une mère pour un petit enfant, son poète qui disait toujours « C'est rien, c'est l'air, merci maman !»« Comme il dit bien maman !» s'écria Coralie en le baisant dans les cheveux. « Quel plaisir d'aimer un pareil ange, mademoiselle, et où l'avez-vous pêché? Je ne croyais pas qu'il peut exister un homme aussi joli que vous êtes belle, » dit Bérénice. Lucien voulait dormir, il ne savait où il était et ne voyait rien. Coralie lui fit avaler plusieurs tasses de thé, puis elle le laissa dormant. « La portière ni personne ne nous a vus, » dit Coralie. « Non, je vous attendais. Victoire ne sait rien. Plus souvent, » dit Bérénice. 10 heures après, vers midi, Lucien se réveilla sous les yeux de Coralie qu'il avait regardé dormant. Il comprit cela, le poète. L'actrice était encore dans sa belle robe abominablement tachée et de laquelle elle allait faire une relique. Lucien reconnut les dévouements, les délicatesses de l'amour vrai qui voulait sa récompense. Il regarda Coralie. Coralie fut déshabillée en un moment et se coula comme une couleuvre auprès de Lucien. À 5 heures, le poète dormait bercé par des voluptés divines. Il avait entrevu la chambre de l'actrice. Une ravissante création du luxe, toute blanche et rose, un monde de merveilles et de coquettes recherches qui surpassait ce que Lucien avait admiré déjà chez Florine. Coralie était debout. Pour jouer son rôle d'Andalouse, elle devait être à 7 heures au théâtre. Elle avait encore contemplé ce poète endormi dans le plaisir. Elle s'était enivrée sans pouvoir se repaître de ce noble amour qui réunissait les sens au cœur et le cœur au sens pour les exalter ensemble. Cette divinisation, qui permet d'être deux ici-bas pour sentir, un seul dans le ciel pour aimer, était son absolution. À qui, d'ailleurs, la beauté surhumaine de Lucien n'aurait-elle pas servi d'excuse? Agenouillée à ce lit, heureuse de l'amour en lui-même, l'actrice se sentait sanctifiée. Ses délices furent troublées par Bérénice. « Voici le Camusot! Il vous est ici » cria-t-elle. Lucien se dressa, pensant avec une générosité innée à ne pas nuire à Coralie. Bérénice leva un rideau. Lucien entra dans un délicieux cabinet de toilette, où Bérénice et sa maîtresse apportèrent avec une prestesse inouïe les vêtements de Lucien. Quand le négociant apparut, les bottes du poète frappèrent les regards de Coralie. Bérénice les avait mises devant le feu pour les chauffer, après les avoir cirées en secret. La servante et la maîtresse avaient oublié ces bottes accusatrices. Bérénice partit, après avoir échangé un regard d'inquiétude avec sa maîtresse. Coralie se plongea dans sa causeuse, et dit à Camusot de s'asseoir dans une gondole en face d'elle. Le brave homme, qui adorait Coralie, regardait les bottes et n'osait lever les yeux sur sa maîtresse. Dois-je prendre la mouche pour cette paire de bottes et quitter Coralie? La quitter, ce serait se fâcher pour peu de choses. Il y a des bottes partout. Celle-ci serait mieux placée dans l'étalage d'un bottier ou sur des boulevards à se promener aux jambes d'un homme. Cependant, ici, sans jambes, elles disent bien des choses contraires à la fidélité. J'ai 50 ans, il est vrai. Je dois être aveugle comme l'amour. Ce lâche monologue était sans excuse. La paire de bottes n'était pas de ces demi-bottes en usage aujourd'hui, et que jusqu'à un certain point un homme distrait pourrait ne pas voir. C'était, comme la mode ordonnait alors de les porter, une paire de bottes entières, très élégantes et à glands, qui reluisaient sur des pantalons collants presque toujours de couleur claire, et où se reflétaient les objets comme dans un miroir. Ainsi, les bottes crevaient les yeux de l'honnête marchand de soierie, et disons-le, elles lui crevaient le cœur. « Qu'avez-vous ? » lui dit Coralie. « Rien, » dit-il. « Sonnez, » dit Coralie en souriant de la lâcheté de Camusot. « Bérénice, » dit-elle à la Normande dès qu'elle arriva. « Ayez-moi donc des crochets pour que je mette encore ces damnées bottes. Vous n'oublierez pas de les apporter ce soir dans ma loge. »« Comment, vos bottes ?» dit Camusot qui respira plus à l'aise. « Eh, que croyez-vous donc ? » demanda-t-elle d'un air hautain. « Grosse bête, n'allez-vous pas croire ?»« Oh, il le croirait, » dit-elle à Bérénice. « J'ai un rôle d'homme dans la pièce de choses, et je ne me suis jamais mise en homme. Le bottier du théâtre m'a apporté ces bottes-là pour essayer à marcher, en attendant la paire de laquelle il m'a pris mesure. Il me les a mises, mais j'ai tant souffert que je les ai ôtées, et je dois cependant les remettre. « Ne les remettez pas si elles vous gênent, » dit Camusot, que les bottes avaient tant gêné. « Mademoiselle, » dit Bérénice, « ferait mieux au lieu de se martyriser comme tout à l'heure. Elle en pleurait, monsieur, et si j'étais homme, jamais une femme que j'aimerais ne pleurerait. » Elle ferait mieux de les porter en maroquin bien mince. Mais l'administration est si ladre. Monsieur, vous devriez aller lui en commander. Oui, oui, dit le négociant. Vous vous levez ? Dit-il à Coralie. À l'instant, je ne suis rentré qu'à 6 heures après vous avoir cherché partout. Vous m'avez fait garder mon fiacre pendant 7 heures. Voilà de vos soins. M'oubliez pour les bouteilles. J'ai dû me soigner, moi qui vais jouer maintenant tous les soirs, tant que l'alcade fera de l'argent. Je n'ai pas envie de mentir à l'article de ce jeune homme. « Il est beau, cet enfant-là, » dit Camusot. « Vous trouvez ? Je n'aime pas ces hommes-là. Ils ressemblent trop à une femme. Et puis, ça ne s'est pas aimé comme vous autres, vieille bête du commerce. Vous vous ennuyez tant. »« Monsieur dîne-t-il avec madame ?» demanda Bérénice. « Non, j'ai la bouche empâtée. »« Vous avez été joliment paf hier. Ah, papa Camusot, d'abord, moi, je n'aime pas les hommes qui boivent. »« Tu feras un cadeau à ce jeune homme, » dit le négociant. « Ah oui, j'aime mieux les payer ainsi que de faire ce que fait Florine. Allons, mauvaise race qu'on aime, allez-vous-en, ou donnez-moi ma voiture pour que je file au théâtre. Vous l'aurez demain pour dîner avec votre directeur au Rocher de Cancale. Il ne donnera pas la pièce nouvelle dimanche. »« Venez, je vais dîner, » dit Coralie en emmenant Camusot.